Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle séquence des petites et grandes histoires de la Basse Marche que j'ai consacrée aujourd'hui aux réfugiés alsaciens en Basse Marche de 1939 à 1940 sous le titre « Une petite Alsace en Basse Marche ». Ce sera notre 353e émission et notre 197e chronique. Pour les textes, j'ai fait appel aux ouvrages suivants. Les Annales de la mémoire, Limousin et Alsacien en Haute-Vienne de 1939 à 1940, et en particulier le chapitre « Le difficile apprentissage de la coexistence » de Daniel Bernusson. Les saisons d'Alsace, septembre 1939, l'Alsace évacuée. Les réfugiés alsaciens en juin 1939, dont Essy Nexon m'était compté.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Septembre 1939, André Fleifer a alors 5 ans. Lui, qui ne parle qu'alsacien, vient de débarquer en Basse Marche, au Grand Chézeau. Hormis ses études à Strasbourg et son service militaire, cet ancien agriculteur a passé toute sa vie à Salmbach, un village de 600 âmes à l'extrémité nord de l'Alsace. Toute sa vie, pas tout à fait, puisqu'entre 5 et 6 ans, il a habité à 800 kilomètres de là, au Grand Chézeau. Écoutons le récit. Déjà, en 1938, tout le monde avait peur de la guerre. Son village, redevenu français seulement 20 ans avant, est encore meurtri par la Première Guerre mondiale pendant laquelle périt son grand-père. Les hommes, dont son père, sont déjà mobilisés par l'armée, et tous le savent, avec la ligne Maginot et la frontière à proximité, un conflit armé allait être l'enfer. Il faudrait donc partir un jour. Ce jour, ce fut le 2 septembre 1939. La pariteur est passée et a dit « Cet après-midi, à 15h, il faut que tout le monde ait quitté le village. » Sa grand-mère a d'abord refusé de partir, il fallait d'abord récolter le tabac. Finalement, en quelques heures, après avoir enterré une caisse avec le service de table et détaché les bêtes, André Fleifer, son petit frère, sa mère et sa grand-mère quittent Salmbach en attelage sans connaître leur destination. Le voyage se fait en plusieurs jours, d'abord jusqu'à une gare, point de rassemblement où ils abandonneront l'attelage, puis en train à bestiaux jusqu'à Limoges. Et enfin, les Grands Chézeaux, un village parmi d'autres de 350 habitants qui voit débarquer toute la population de Salmbach. Nous sommes arrivés, écrit André, sur la place du village. Ils avaient préparé une soupe et il fallait répartir les gens pour dormir. Nous avions une chambre au restaurant. Seule la mère d'André parle français. Les vieux et nous, les tout jeunes, on ne comprenait pas le français. Mais ça s'est harmonisé assez vite, se rappelle André, qui néanmoins se souvient d'avoir surtout joué avec ses copains alsaciens. Les agriculteurs de Salmbach travaillent dans les champs limousins et le dimanche, les bancs de l'église se remplissent d'alsaciens très pratiquants. Mais cette vie de réfugié est douloureuse, particulièrement pour les vieux qui souffrent du mal du pays. Et André en évoque un qui décide de rentrer en Alsace avec un âne. Le séjour en Limousin se terminera un an et deux mois après. Un jour, dit André, ça s'est présenté. Les Allemands avaient gagné la guerre et ils ont organisé le retour. Alors se poser la question, est-ce qu'on rentre ou pas? Seules 3 ou 4 familles sont restées. La famille d'André quittera à l'automne 1940 les Granges chez eaux, où a été enterré le petit frère d'André, mort de diphtérie. Son cercueil sera ramené en Alsace des années après. De retour dans la ferme alsacienne, je rentre dans la cour, écrit André, il y avait le chat. Il nous reconnaissait encore. Avec l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne nazie, d'une nuit à l'autre, on est redevenu citoyen allemand. Nous allons revenir sur le départ des réfugiés alsaciens, le 1er et le 2 septembre 1939. Mais avant, j'ai cité les Granges chez eaux comme commune d'accueil en Basse-Marche. Mais il n'y aura pas que les Granges chez eaux, il y aura bien d'autres communes de Basse-Marche qui vont accueillir des réfugiés alsaciens. Ce sera le cas de Saint-Léger-Magnazet, de Dompierre-les-Églises, de Saint-Hilaire-la-Treille, de Château-Ponsac, de Bellac, de Saint-Sulpice-les-Feuilles, d'Arnac-la-Poste, d'Azalry, de Droux, de Thia, de Magnac-Laval, d'Udora, de Maillac-sur-Benaise, de Darnac, de Cromat, de Peyrade-Bellac, de La Croix-sur-Gartempe, de Saint-Martial-sur-Isope et de Mézières-sur-Issoire. Voici d'ailleurs quelques mots sur les Alsaciens de Sels arrivant à Mézières-sur-Issoire. Avec 30 kg de bagages, les habitants de Sels partent à pied, à vélo ou en charrette, laissant toute leur vie derrière eux pour atteindre la gare et embarquer dans des wagons de marchandises ou à bestiaux en destination du sud-ouest de la France. Ce voyage durera plus de 3 jours dans des conditions d'inconfort et d'hygiène déplorables. Pour la plupart d'entre eux, il s'agit du premier grand voyage. À l'angoisse de l'inconnu, se mêle la peur de ne jamais revenir. Arrivé en gare de Limoges, un petit train de campagne emmène tout ce petit monde à Mézières-sur-Issoire, destination finale où le maire de l'époque, Monsieur Payet, a mis tous les maigres moyens de sa commune en œuvre afin d'accueillir au mieux ces réfugiés qui souvent ne parlent que le dialecte alsacien. Les habitants de Sels furent répartis dans les familles, les fermes, les villages, certains à Saint-Martial-sur-Isope, d'autres à Mézières-sur-Issoire. Voici comment Pascal Coqui, dans septembre 1939, l'Alsace évacuée, nous raconte cette évacuation précipitée. Il a fallu partir, tout quitter, d'un coup, comme ça. Prendre ses clics et ses claques, ramasser tout ce qu'on pouvait, ne pas céder à la panique. Essayer de penser à tout, sachant bien que dans ces cas-là, on n'est plus capable de penser à rien. Il fallait partir puisque c'était écrit, et par des militaires encore, ce qui ne souffre jamais la moindre discussion. Les plus prévoyants avaient fait provision de bagages, on veut dire qu'ils étaient allés des semaines auparavant dévaliser les boutiques spécialisées. Les plus prévoyants avaient prévu, c'est dans l'ordre des choses, les autres en étaient quittes pour tasser leurs affaires tant bien que mal dans des baluchons et des paquets enveloppés de brocarts sombres au sein d'une courroie dans de minuscules sacs contenant une vie. 30 kilos par personne, pas plus, ça ne pèse pas lourd, une vie. Dans les bourgs, les cloches avaient sonné le tocsin à l'appel de la mobilisation. Il avait surpris les hommes au champ en plein midi et les avait fait revenir au village à toutes jambes. Ce matin du 1er septembre, on sentait la guerre. On parlait de la mobilisation générale. Chacun était retourné aussi vite qu'il lui était possible dans ses foyers. Il y avait sans doute là le père, debout, embarrassé de ses bras, le temps de digérer le choc de la nouvelle, et la mère, s'activant déjà à rassembler papier personnel et vêtements, cousant rapidement sur les vêtements de mômes surexcités de larges bandes de tissu avec leurs noms inscrits dessus, pour qu'on ne les égare pas dans la cohue prévisible. Donnant un coup de balai, avant de partir, parce qu'on ne laisse pas sa maison en désordre quand on s'en va, et que c'était un moyen comme un autre d'évacuer la panique qui gagnait. Ce vendredi 1er septembre 1939, en Alsace et en Moselle, les voitures à chevaux quittent donc précipitamment les cours des fermes en un frisouli de gravier. Des dizaines de vélos, de voitures à bras, de familles à pied traînant poussettes et charrettes les imitent et rejoignent sur les routes la longue cohorte de ceux qui sont déjà des réfugiés. Des vies concentrées comme pétries dans un point. Le plan d'évacuation concocté par les autorités militaires envoyées sous Plicacheté a été officiellement dévoilé aux maires des communes ce matin-là. Les élus découvrent alors le nom du premier village d'accueil de leurs concitoyens dans les Vosges, l'itinéraire à suivre, les feuilles de cantonnement pour chaque famille, ainsi que les noms des membres des commissions de sauvegarde chargés de rester sur place et de veiller sur les maisons et les biens des exilés. Ce plan stipule qu'à minuit, les villages doivent avoir été évacués. Et puis dans les campagnes, il ne s'agit pas seulement d'abandonner sa maison. Il faut aussi laisser les bêtes. Que faire des vaches, des cochons, des volailles? Évidemment, pour les volailles, c'était facile. Comme mon père était mobilisé, c'était moi, le chef de famille, raconte dans un récit posthume François Storck, alors âgé de 15 ans. Dans ses souvenirs d'un préfet, René P. explique « Au nord de Strasbourg, les paysans avaient ouvert les étables et libéré les bêtes. Elles crevèrent par centaines d'avoir brouté le tabac. À leur arrivée, les militaires français se transformeront en fossoyeurs d'animaux et depuis leur exil en Dordogne, en Haute-Vienne, en Limousin ou ailleurs, les paysans alsaciens penseront longtemps à leurs bêtes laissées sans soins et sans surveillance. » Reste que, pour l'essentiel, et hormis ses larmes et quelques renaclements inévitables, l'évacuation de quelques 380 000 Alsaciens répartis dans 181 villes et villages situés à proximité du Rhin, entre Saint-Louis et Lauterbourg, s'est déroulée de façon remarquable.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Et puis, alors, nous l'avons déjà dit, il faut se rendre dans les gares pour le grand départ. Dans le journal de marche de la 5e armée, daté du 1er septembre 1939, l'autorité militaire constate d'ailleurs, impressionnée, les opérations de repliement se déroulèrent dans le calme et dans le plus grand ordre. Les colonnes de réfugiés se replièrent sur les routes pour rejoindre les gares. Au total, ce sont 179 trains d'évacuation civile, dont 83 au départ de Strasbourg, qui brinque-balleront des jours et des nuits durant sur le réseau ferré français. Se perdant sur des réseaux inconnus, s'arrêtant des heures en pleine campagne sans raison apparente, repartant tantôt en arrière, tantôt en avant, car cela avait beau avoir été parfaitement préparé, c'était quand même le chaos et déjà la guerre. Des trains souvent vétustes et dépourvus de confort. En fait, chaque convoi disposait d'un wagon avec des places assises, une trentaine je crois, pour les malades et les vieillards, se remémore Robert Schelcher qui, à 11 ans, partait en direction du Limousin avec sa grand-mère alitée. C'était un wagon spécial avec des ressorts plus souples. Les journées font vite deux fois leur âge dans ces circonstances-là. Et dans ce voyage, qui dans l'absolu n'était pas si long que ça, mais qui s'est vite transformé en expédition, des existences ont basculé. À leur arrivée, à destination, les enfants n'en étaient plus. En descendant du train à Limoges, ma grand-mère est morte à mon bras, comme ça, d'un coup. Une bonne sœur est passée, m'a demandé si on était catholique ou protestant, et comme nous n'étions pas de sa confession, elle est repartie sans un mot. Ma mère et ma tante sont allées faire la déclaration de décès, et moi je suis resté dans la maison du chef de gare avec ma grand-mère morte. Le soir, il y a eu le couvre-feu, elles n'ont pas pu rentrer. J'ai attendu la nuit là. Ma grand-mère a été enterrée à Limoges, et quelques années après la guerre, on a pu faire rapatrier son corps. Tout cela fait partie de ces choses qui font changer le timbre de la voix quand on en parle. Tout cela fait partie de l'histoire, celle des Alsaciens réfugiés en leur propre pays et qui allaient passer près d'une année loin de chez eux avant de redécouvrir un autre pays, une Alsace annexée. Les réfugiés alsaciens sont arrivés en Limousin, en basse marche, et la première difficulté, c'est l'hébergement. Le casse-tête de l'hébergement. À la mi-octobre, un rapport préfectoral dresse le bilan de l'établissement des réfugiés alsaciens et constate que, malgré tous les efforts déployés, si la mise sous toit est réalisée, l'hébergement reste déficient dans beaucoup de communes. Deux insuffisances graves sont soulignées. L'absence de confort élémentaire, notamment de moyens de couchage, et l'entassement très fréquent dont le préfet dénonce les dangers pour les jeunes gens contraints à cohabiter. Et comme l'amélioration tarde à venir, des maires alsaciens multiplient les plaintes et les appels aux autorités dans des courriers où parfois l'amertume se fait accusatrice. Plus fréquemment encore, ils saisissent leurs élus, notamment le président du conseil général, M. Walter, replié à Périgueux, et certaines situations désespérantes sont alors évoquées en très haut lieu. Or, l'étude de plusieurs situations communales montre que plus d'une famille limousine sur cinq abrite des évacués, ce qui représente, compte tenu des caractéristiques de l'habitat limousin de l'époque, un effort sans doute maximal. Dès l'arrivée, les maires répartissent les évacués dans des pièces vides, des habitations occupées par la procédure du billet de logement, dans des logements inoccupés ou les hôtels par la procédure de la réquisition avec indemnisation. Comme souvent cela ne suffit pas, on a recours provisoirement aux salles d'école, aux salles de bal, parfois aux hangars ou aux granges. Mais il arrive que le provisoire dure. Quoi qu'en disent certains maires alsaciens en colère, les refus d'héberger sont rares. Certes, le préfet, dans une note interne début octobre, évoque des réticences. Dans certaines communes, les municipalités ont hésité à exercer à l'égard de certains propriétaires leur droit de réquisition. Comment expliquer cette défaillance fréquente de l'hébergement? Si on admet que la quasi-totalité des capacités sont utilisées, cela veut dire que le nombre d'évacués à héberger est trop élevé, eu égard aux potentialités locales, et qu'il y a donc surcharge. Et là, on touche à la réalisation du plan de réception. Le plan de réception élaboré en parallèle au plan d'évacuation prévoit l'accueil de 70 000 personnes. En deux vagues, près de 38 000 relevant de la zone avant sont évacués dès l'entrée de la guerre, et pour les 28 000 de la zone arrière, la décision est laissée à l'appréciation des autorités militaires. À l'exception de la ville de Limoges, dispensée, toutes les communes de la Haute-Vienne doivent accueillir. Les unes reçoivent des évacués de la première vague, elles se situent principalement au nord et à l'ouest du département. Les autres, au centre et au sud, accueillent des évacués de la seconde zone. L'administration met en correspondance les communes en répartissant les populations sur le critère mathématique de la charge moyenne, c'est-à-dire le rapport accueilli-accueillant. Pour le département, avec 70 000 accueillis pour 215 000 accueillants, la charge communale s'établit à 32,5%. Dans la plupart des communes de la basse marche, la charge est de plus de 40% et même parfois plus de 50%. Grosso modo, il y a chez nous un réfugié alsacien pour un bas marchois. Deux mots sur l'exemple de la commune de Darnac. Darnac, dont le nord du département a accueilli les évacués de deux communes alsaciennes, soit 614 évacués pour 937 habitants, ce qui constitue une charge trop lourde de 65%, soit le double de la norme fixée à 32%. Très vite, le maire de Darnac est confronté aux plaintes et aux revendications des évacués, insatisfaits des conditions d'accueil qui leur sont faites. Par exemple, les membres des familles nombreuses ne veulent pas être séparés et refusent les logements proposés, souvent trop petits. Malgré la médiation du sous-préfet, toutes les difficultés ne peuvent pas trouver de solution et le départ des habitants de Bulle est inéluctable. Ils partiront vers Nexon. L'exemple de Dinsac. Les premiers évacués alsaciens arrivent de Wilsimbourg par deux trains dans la nuit du 3 au 4 septembre 1939 en gare de Saint-Sulpice-Laurière. Les 468 personnes du premier train sont dirigées sur Magnac-Laval et les 715 du second train vont vers l'Odorat et Dinsac. Entre le 6 et le 16 septembre, ce sont en moyenne 4000 personnes qui arriveront chaque jour et au total, au 1er octobre, l'administration a recensé 58 784 arrivants. Deux mots encore sur la création des villages alsaciens pour résoudre les difficultés du logement. Fin septembre 1939, constatant que les capacités d'accueil existantes étaient insuffisantes pour faire face à l'arrivée probable d'une masse de réfugiés de la zone arrière, les autorités limousines décident de la création de plusieurs villages alsaciens. Il s'agit d'un ensemble d'une dizaine de bâtiments à l'écart du bourg avec cuisine, installations sanitaires, réfectoires et alimentation en eau potable. Cela devait ressembler au village limousin, mais au lieu de construction en pierre, il s'agissait de baraques en matériaux légers avec couverture en fibrociment et tôle ondulée galvanisée et avec une vie collective imposée. En fait, de village, on a construit des camps avec des baraques. Dans notre région de Basse-Marche, un est prévu au Odorat avec 8 dortoirs et 2 réfectoires et une capacité d'accueil de 640 personnes.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Autre difficulté dans cette cohabitation, la barrière de la langue. Dans son article consacré au difficile apprentissage de la coexistence, Daniel Bernussou précise ce problème. Avec l'installation, les deux populations se découvrent vraiment, l'étonnement est grand et les incompréhensions inévitables. Il y a tout d'abord les incompréhensions nées de l'étrangeté de l'autre. Pour les Limousins, l'étrangeté de l'évacué alsacien, c'est la langue. Les autorités militaires civiles et même religieuses ont beau multiplier les communiqués pour expliquer que l'évacué parle un dialecte, beaucoup ne se laissent pas convaincre. Et les yaya parlent boche. L'analogie parfois avancée entre Alsaciens et patois limousins n'a guère plus de succès, car à la différence des patoisans, peu d'adultes alsaciens comprennent le français et encore moins le parlent. D'où les questions récurrentes, comment communiquer, souci principal de certains maires, et chez certains, est-on un vrai français si on ne parle pas le français? Pour les Alsaciens, l'étrangeté limousine, ce sont les conditions de vie en premier lieu et qui scandalisent, le manque d'hygiène, c'est-à-dire les toilettes au fond du jardin, mais aussi la faiblesse du confort, l'exiguïté des logements, l'âtre qui enfume sans chauffer, l'eau que l'on puise, l'électricité souvent absente et le régime alimentaire. La grosse soupe limousine que détestent les écoliers alsaciens au point de bouder la cantine. D'où la question, ou d'où les questions même, comment faire pour s'adapter? Et chez certains, comment les Limousins peuvent-ils se satisfaire de vivre ainsi? Les questions des uns et des autres mettent du temps pour trouver réponse. Chez certains esprits obtus, il est permis de penser que l'impression première négative perdure jusqu'à la fin du séjour. Autre problème, celui de l'école. L'école, durant les premiers mois, donne lieu à un double litige. Le premier concerne les locaux scolaires dont les parents d'élèves limousins entendent qu'ils servent à accueillir leurs enfants prioritairement. Un mois après les élèves limousins, début novembre, les 11 000 enfants alsaciens et leurs 300 maîtres et maîtresses effectuent à leur tour la rentrée. Bien évidemment, les bâtiments scolaires manquent et la solution s'impose d'elle-même, le partage des locaux. Mais il est un autre impératif. En effet, le décret du 5 septembre 1939, en confirmant le régime spécial de l'Alsace-Lorraine, fait obligation aux autorités départementales de créer une deuxième école. École publique certes, mais concordat oblige, école confessionnelle. Cela signifie qu'en plus des locaux, il convient de partager le temps scolaire. Les élèves limousins sont présents le matin, avant de céder la place aux enfants et aux instituteurs alsaciens l'après-midi, c'est le mi-temps. Or, quelques semaines après la mise en place du mi-temps, les protestations limousines se multiplient. Le refus n'est, du moins dans son expression, pas idéologique, aucune laïcité militante. Mais les parents demandent l'abolition d'un partage contraire, selon eux, à l'intérêt de leurs enfants. Levée trop matinale, apprentissage trop intensif, et les pétitions fleurissent, et parfois dérapent. Hier soir, à 5 heures, nous avons entendu des chants en allemand et non en français. Quelle honte! Le second litige porte sur la présence, pour cause de catéchisme, des prêtres dans les salles de l'école publique limousine. L'émoi des instituteurs et des maires de nombreuses communes est si grand que l'inspectrice primaire alsacienne en charge de l'école alsacienne transmet en novembre 1939 un rapport très alarmiste à la vice-présidence via le préfet de la Haute-Vienne. Elle y écrit. Je signale que j'ai visité à cette date 83 communes de la Haute-Vienne, prenant longuement contact chaque fois avec les maires des communes d'accueil et de communes évacuées, avec le personnel enseignant limousin et alsacien, et que je crois de mon devoir de faire connaître l'existence de deux courants contraires prêts à s'affronter. Un courant d'anticléricalisme qui va s'exaspérant et une tendance marquée à abuser de la situation. Et elle ajoute, il convient d'interdire absolument au clergé l'accès des locaux scolaires limousins. Des municipalités se proposent de faire grève si cette interdiction n'est pas clairement donnée. Alors nous pourrions longuement parler de l'organisation administrative de cette petite Alsace en basse marche, nous n'en avons pas le temps. Deux mots cependant sur les retombées positives de la présence alsacienne. Elles sont économiques et financières. L'État équipe, poêle, literie, ustensiles, et certaines maisons limougeaudes obtiennent des commandes qui gonflent leur chiffre d'affaires. Dans les communes rurales, les commerçants augmentent considérablement leurs ventes car les évacués achètent de tout et paient comptant. Les agriculteurs ne se plaignent pas d'une main-d'œuvre efficace et peu exigeante, sans oublier la centaine d'auxiliaires limousins recrutés pour aider les secrétaires de mairie. Enfin, les semaines passant, les logeurs s'habituent volontiers à recevoir la rente, même modeste, du loyer de l'évacué. Une retombée plus lointaine est espérée du clergé limousin. Les Alsaciens vont en nombre à la messe et la qualité de leur chant impressionne notamment à Noël. D'où la conviction de certains curés limousins que de l'exemple alsacien bien utilisé ne peut que provoquer un réveil de la foi endormie par 50 ans de laïcisme. C'est ce que déclare le curé Dudora. À l'évidence, passé 1939, pour beaucoup de limousins, les Alsaciens ne sont plus les réfugiés de septembre. Terminons avec cette conclusion de Daniel Bernussou dans Limousin et Alsacien en Haute-Vienne, le difficile apprentissage de la coexistence. L'acceptation de l'exil. Il est un dernier facteur essentiel qui touche à la psychologie des deux populations. Moins de gêne réciproque, moins d'assistanat pour les Alsaciens, des compensations pour les Limousins, autant de conditions qui aident les uns à accepter l'idée d'exil, les autres la perspective d'un accueil prolongé. Car l'évidence s'impose, à la fin de l'année 1939, le séjour va durer. Les nouvelles de la province, qu'elles soient envoyées par ceux qui y sont restés ou transmises par les soldats limousins qui y stationnent ou rapportées par les délégations autorisées à retourner en Alsace pour quelques jours afin de récupérer les affaires et de vérifier l'état des lieux, dissipent les illusions. L'affrontement va survenir, le refuge est au loin, il faut se résigner à l'exil, il faut aménager l'exil. Les circonstances nous imposent non pas de passer, mais bien plutôt de demeurer chez vous. Et vous ne serez pas surpris de la curiosité quelque peu anxieuse avec laquelle nous espérons voir s'établir entre nous non pas un pont qui relie deux rives par ailleurs bien lointaines, mais des relations amicales et continues. Il faut donc près d'un trimestre pour passer d'une coexistence tendue et subie à une coexistence apaisée et acceptée. Les efforts de l'administration, préfecture, mairie limousine et alsacienne, relayés par de nombreuses initiatives privées, contribuent en un premier temps à atténuer les rigueurs du séjour. Dans un second temps, ils assurent aux évacués une existence quotidienne autonome impliquant des relations fréquentes avec la population d'accueil. En somme, une existence partagée. La pédagogie déployée par quelques élus alsaciens, épaulés par les maires limousins, lève suffisamment de réticence pour que s'établisse un modus vivendi entre les deux populations. Avec l'année 1940, les Alsaciens sont pour partie en voie d'intégration dans la réalité limousine. Pourtant, le test est à venir. Qu'en sera-t-il de cette coexistence lorsque l'épreuve tant redoutée, la bataille de France, s'engagera et que, contre toute attente, elle se soldera par l'humiliante défaite. Le difficile apprentissage n'aura-t-il servi à rien ? Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche, intitulée aujourd'hui « Une petite Alsace en Basse Marche ». Pour les textes, j'ai fait appel aux ouvrages collectifs suivants, « Les annales de la mémoire, Limousin et Alsacien en Haute-Vienne », »,« Les saisons d'Alsace, septembre 1939, l'Alsace évacuée », »,« Les réfugiés alsaciens, en juin 1939, dont « Et si Nexon m'était compté ». Pour les accompagnements musicaux, j'ai utilisé les groupes Maluzerne, le duo presque classique, le duo MacBornau, les musiciens de Saint-Julien et les compositeurs Schubert, Karl Hoff, Camille Saint-Saëns, Vivaldi et John Williams. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Philippe Quicampoix et Gérard Schillinger. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.